t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. L'église du Christ au Congo, ECC, dénonce la corruption à grande échelle des députés provinciaux par des candidats, gouverneurs et sénateurs. L'ECC dit détenir des faits palpables de cette corruption et entend les mettre à la disposition du parquet pour une éventuelle instruction. Entre-temps, certaines personnalités, à commencer par Ada Bombolé, en passant par Vidi Chimanga et Luzo Lobambi et autres candidats au scrutin sénatorial et au gouvernorat des provinces ont retiré leur candidature et dénoncent également ces faits de corruption. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission directement en composant les 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie pendant ces 57 minutes interactives. Pierrot Lamegi, Jean-Claude Tiala, Nico Okalambay, sous la supervision de Martin Sebujangwe, ce programme est coordonné et présenté par JR Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci aussi pour tous vos commentaires qui sont déposés sur notre page Facebook et merci de l'intérêt que vous accordez à cet échange citoyen. Paulin Oudiane, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, honorable.
Bonjour, mon frère, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
La législature passée, vous étiez député provincial. Cette législature, vous avez la chance d'être élu député national. Alors, vous avez également le choix à opérer entre député provincial ou député national. Mais néanmoins, beaucoup des Congolais, des compatriotes décrivent ou fustigent déjà les pratiques ou les faits de corruption qu'on enregistre au sein des différents hémicycles. Est-ce que vous avez une lecture? Comment vous expliquez-vous ces phénomènes?
Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous devons situer le problème dans sa globalité. La société congolaise, vous savez que c'est une société très corrompue. Et puis, je crois que le conseiller spécial du chef de l'État a dénoncé ces fléaux à maintes reprises. Mais on n'a pas trouvé un mécanisme approprié pour essayer de lutter contre la corruption dans notre pays. La corruption, pour que ça puisse diminuer dans notre pays, il faut que les autorités au sommet de l'État puissent d'abord prendre la ferme décision de la combattre. Bon. Tous les gouverneurs qui sont élus depuis 2006 et tous les sénateurs depuis 2006, au moins plus de 90% ont corrompu les députés pour passer. Il y a seulement quelques exceptions. Il y a quelques députés qui n'ont pas touché le pot de vin. Tous les autres ont touché. Et c'est encouragé par les systèmes dans lesquels nous évoluons.
Donc si je comprends bien, honorable Paulin Oudiane, ce n'est pas nouveau uniquement pour cette législature. Même bien avant, il y a eu des cas de corruption. Comme vous le dites, 80%.
Il n'y a rien de nouveau. Ça commence, donc c'est depuis 2006, nous avons commencé le processus donc démocratique tout en corrompant les électeurs. Vous avez vécu dans ces pays en 2006 les élections présidentielles. On a commencé par distribuer des t-shirts, distribuer des foulards, distribuer des chapeaux, des képis, ainsi de suite, donner des vélos, des motos, de gauche à droite. Ça, c'est la corruption. Et puis, nous sommes allés aux élections législatives, la même chose. Donc, en 2011, la même chose, et en 2018, la même chose. Ce n'est pas du nouveau. Et alors, s'il faut lutter contre la corruption, il faut commencer au niveau de la présidence. Les élections présidentielles, vous avez suivi avec moi. Il y a des candidats qui sont allés de gauche à droite et distribuer de l'argent. Ils ont donné même de l'argent aux étudiants. Les étudiants ont manifesté, ont brûlé même des pneus sur les avenues. On a donné de l'argent aux administratifs, à des chefs coutumiers, tout ça au fil de tout le monde. Mais qui a sanctionné? Est-ce qu'on n'a pas vu ça? On voit seulement maintenant? Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est notre société qui est complètement foutue, qui est complètement corrompue. Il faut trouver une solution à ce problème à tous les niveaux. Donc, on ne peut pas seulement s'accrocher au dossier des élections des sénateurs et des gouverneurs, comme si la corruption a élu domicile.
A commencé par ça. Alors, donc, si je comprends bien, monsieur Paulin Audiane, vous êtes député national actuellement, la démarche poursuivie par Luzolo Bambi, qui autrefois était conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, pour cette occasion, lui qui se retire de la course comme sénateur, en adressant une lettre au PGR pour poursuivre ces cas de corruption, et la même démarche qui a été également entamée par l'ECC, l'Église du Christ au Congo, et qui au fait annonce avoir détenu des faits palpables de cette corruption et entend les mettre à la disposition du parquet pour une éventuelle instruction, seront des démarches qui ne vont pas aboutir.
En tout cas, moi je salue d'abord le courage de l'Église du Christ au Congo et du professeur Luzolo Bambi. Ce sont des gens qui ont les soucis de ces pays. Mais je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. Vous devez retenir que les assemblées provinciales de notre pays, à plus de 90%, nous avons suivi avec vous la proclamation de la CENI. Ce sont des assemblées de la majorité présidentielle, entre guillemets, FCC. Est-ce que FCC va tourner l'épée contre lui-même? Je ne sais pas. Vous avez suivi aussi que dans notre pays ici, pour les comptages électoraux, il y a des candidats qui avaient pleinement raison, qui ont introduit les recours, les autres, on leur a interdit de ne pas introduire les recours, parce qu'on a tout bloqué. On ne veut pas que ça puisse se passer comme ça. Mais est-ce que uniquement pour ces cas ici, ça va réussir? À moins que le président, le nouveau président qui est au pouvoir, puisse donner un temps. Mais je doute fort. Je doute pour ma part. Je ne sais pas si on va trouver une solution maintenant. Mais pour trouver la solution à ces fléaux, il faut que les décideurs politiques congolais s'investissent à tous les niveaux pour combattre la corruption. Parce que au niveau même de l'école primaire, il y a la corruption. Au niveau de l'école secondaire, à l'université, donc partout, dans tous les services de l'État, il y a la corruption. On ne peut pas se délivrer documents sans la corruption. On ne peut pas porter assistance sans donner quelque chose. Alors, ça, c'est quel genre de société ? Il faut une volonté politique avérée pour que nous puissions atteindre au moins les niveaux qu'il faut, parce qu'on ne peut pas éradiquer complètement la corruption, mais il faut diminuer sensiblement la corruption dans notre pays si la volonté politique existe. Donc si cette volonté n'existe pas, bon, je ne vois pas à quoi nous allons aboutir.
Merci beaucoup, Paulin, d'avoir accepté d'intervenir pendant ces premiers quarts d'heure de cette émission. Je retiens que la société congolaise est une société corrompue et beaucoup d'efforts ont été consentis d'ailleurs par l'ancien conseiller spécial du président de la République, des anciens présidents de la République. Ces efforts sont restés sans succès. Il faut que les autorités au sommet de l'État puissent s'investir avec des moyens conséquents afin d'arriver. Et pour rappel, 80% des sénateurs ou encore d'autres personnalités politiques dans des institutions, que ce soit dans la législature passée en 2006 ou 2011, pour vous, vous estimez que ce sont des gens qui sont issus de la corruption. Aujourd'hui, avec la lettre de Luzolo Bambi au PGR ou encore la même démarche entreprise par l'Église du Christ au Congo, vous estimez que cela ne donnera rien si ce n'est qu'accoucher d'une souris. Voilà, donc l'Assemblée provinciale, 80% des assemblées de l'ancienne majorité aujourd'hui. Donc c'est difficile d'attendre qu'il n'y ait pas de corruption. Mais il y a le souci de pouvoir imprimer cette volonté politique avérée afin d'arriver finalement à diminuer sensiblement la corruption. Ça, c'est votre souhait. Merci beaucoup, honorable Paulin Odian, d'avoir appelé de Kinshasa. Alors, Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Marie-Paul, vous êtes avec nous à Kisangani. Gracie, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Kapi. Bonjour.
Quelle est votre réaction après avoir suivi Paulin Odian?
Ah oui, pour moi, même sans preuve, sans avoir des preuves tangibles, nous le savons très bien que il y a la corruption au sein de l'Assemblée nationale, parce que le député de la législative passée, du mandat passé, nous ont prouvé que la corruption est probable, parce que ils pensent que pour eux, c'est le moment propice pour acheter des parcelles, pour en avoir ce qui était même avant. Et ceux qui viennent de rejoindre aussi l'Assemblée nationale le pensent aussi parce qu'ils viennent de leur crise. Ils pensent que c'est le moment favorable pour s'acheter des voitures, s'acheter des parcelles. Alors pour moi, je pense que l'on devait changer de paradigme, c'est-à-dire changer ces paradigmes corruptibles, les rendre beaucoup plus patriotiques. Si seulement on veut prendre des décisions politiques concernant la population.
Et qu'est-ce que vous craignez exactement, Gracie? Qu'est-ce que vous craignez qui va produire, cette corruption va produire?
Mais on craint beaucoup plus que l'intérêt populaire soit négligé, parce que quelqu'un qui vient par la corruption ne doit pas tenir compte de la population, parce qu'il sait qu'il n'a rien à rendre à la population, il n'a pas de redevabilité envers la population, parce qu'il sait que c'est sa poche qui lui a donné le pouvoir.
Merci beaucoup, Gracie. Pour vous, un fruit de la corruption ne sera jamais redevable à la population, si ce n'est que par rapport à ses propres intérêts. Merci beaucoup. On va prendre Maître Donatien Okoko qui est avec nous. Maître Donatien, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Gérard. Malheureusement, je n'ai pas eu la thématique, et si vous pouvez reprendre comme ça, je peux réagir à chaud et chaud.
Voilà, donc je disais que l'Église du Christ au Congo dénonce la corruption à grande échelle des députés provinciaux par des candidats gouverneurs et sénateurs. L'ECC dit détenir des faits palpables de cette corruption et entend les mettre à la disposition du parquet pour une éventuelle instruction. Entre-temps, certaines personnalités, vous avez suivi comme nous, Luzolo Bambi qui a adressé d'ailleurs une lettre au PGR, Ada Bombolé qui s'est retiré déjà de la course, et Vidier Chimanga pour le compte de Cash, et qui lui aussi a retiré sa candidature et dénonce également ces faits de corruption. Alors, comment expliquez-vous ces phénomènes? Parce que notre premier intervenant disait tout à l'heure, ce n'est pas nouveau, parce que cette pratique date même des législatures passées.
Oui, ce sont de pratiques regrettables, mais des pratiques qui ont élu domicile dans notre pays. Lorsqu'on dit que dans notre pays, il y a inversion des valeurs, c'est par rapport à cela. C'est regrettable que les gens que l'on appelle déshonorables, mais qui sont prédisposés à recevoir la corruption, les gens qui cherchent à être corrompus. Cette histoire-là est vraie et c'est vérifiable. Nous avons des amis qui ont eu la chance d'être élus députés nationaux, mais quand vous échangez, il vous dit que lui, pour donner sa voix à un gouverneur ou à un sénateur, sa voix ne sera pas gratuite. Mais si nous devons, tout le monde doit agir de cette façon-là, que la voix ne sera pas gratuite, que la voix doit coûter tel montant, alors que lui a été élu gratuitement par le peuple. Mais si maintenant, dans les années à venir, si le peuple, lui aussi, va commencer à exiger que sa voix n'est pas gratuite, notre pays, ses députés provinciaux, nous amène où? Donc c'est une situation regrettable, mais que je peux proposer aux candidats gouverneurs et aux candidats sénateurs d'être patriotes et de pouvoir dénoncer ce fait-là. Et au besoin, piéger ces députés provinciaux-là, qui vous demande de l'argent, vous le piégez et on met la main sur lui, ça va être une très très bonne chose que les candidats gouverneurs et les candidats sénateurs soient à la fois victimes et complices de leur comportement. Victimes, pourquoi? On leur demande beaucoup d'argent. Et complices, pourquoi? Ils cherchaient les députés pour les députés provinciaux pour les corrompre. Donc, si nous devons continuer avec cette pratique-là, en tout cas, notre pays, je ne sais pas comment nous allons le redresser. Parce que j'ai entendu des gens dire qu'il faut changer le système électoral. Mais tout le monde ne doit pas avoir une même légitimité. On ne peut pas élire tout le monde au suffrage direct. Ça va être c'est pratiquement impossible. Si on doit élire le président, suffrage direct, député national, suffrage direct, provincial, suffrage direct, gouverneur, suffrage direct, sénateur, suffrage direct, bourgmestre. Et non, ça n'ira pas. Le peuple va se fatiguer. Mais maintenant, il faut que nous puissions avoir, il faut savoir encadrer les députés provinciaux pour qu'ils n'arrivent pas à faire mal, qu'ils n'arrivent pas à vendre très mal l'image de notre pays. Voilà un peu comment je peux intervenir à ce niveau de débat.
Voilà, donc pour vous, vous estimez que changer le système électoral n'est pas opportun parce que ça ne va pas résoudre ces problèmes de corruption. Mais il y a bon nombre d'auditeurs qui disent que c'est pas nouveau, ça date des législatures passées, et si nous laissons les choses continuer comme ça, les fruits de corruption ne sera que redevable aux corrupteurs. Oui, alors c'est le danger pour l'avenir de ce Congo qui s'est engagé dans la démocratie.
Oui, c'est ça tout à fait. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a eu corruption l'année passée, la fois passée, que nous devons dire qu'il faut qu'il y ait corruption cette année. La corruption, il faut la combattre. La corruption doit quitter notre pays. C'est pourquoi je propose que les députés, les candidats gouverneurs et les candidats sénateurs, qui ne doivent pas être victimes et complices de ces députés provinciaux qui sont prédisposés à la corruption. C'est inimaginable. On vous appelle honorable, mais vous cherchez à être corrompu. C'est anormal. Mais je dis aussi, Gilles, que le peuple sera très fatigué si on doit combattre la corruption par organiser toutes les élections au suffrage direct. Ça va être fatigant. Mais avec ces députés provinciaux, il faut les piéger. Vous causez avec quelqu'un, il vous dit qu'il faut donner l'argent, surtout quand on est candidat gouverneur ou candidat sénateur. Il faut piéger.
Oui, mais nous avons vu, Maître Donatien, nous avons vu les modes électoraux à NDC pour la toute première fois. Nous avons fait des scrutins, trois scrutins en une journée, la présidentielle, l'législative nationale et la législative provinciale. Je crois que la population était prête à le faire directement aussi pour les autres. Il va pour toutes.
Non, c'est-à-dire quoi? Lorsque le député provincial et le gouverneur ont la même source de légitimité, il va être difficile que les députés provinciaux puissent contrôler la gestion du gouverneur. Parce que le gouverneur va dire que moi aussi j'ai été élu par les bases comme vous. Voilà pourquoi à ce niveau-là, il faut que ce soit l'élection par
le second degré.
Parce que c'est eux qui doivent contrôler la gestion du gouverneur. Donc les deux ne peuvent pas avoir une même source de légitimité.
Voilà, donc voilà, merci beaucoup Maître Okoko. On va prendre Franck de Vienne. Franck, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tout le monde au studio, bonjour à tous les amis qui se sont déjà exprimés.
Alors quel est votre avis Franck?
Oui, merci beaucoup. Je crois que plusieurs fois on revient sur cette thématique de la corruption. Ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas pour la dernière fois, parce que la corruption dans le mental congolais, c'est devenu comme un mode de vie, c'est comme une normalité. Et la question que je me pose moi personnellement, sur base de tout ce qui se fait chez nous depuis des décennies, je me demande est-ce qu'on peut demander à un groupe d'organisateurs un incendie pour s'ériger encore en sapeur-pompier. C'est là la grande difficulté. Et quand il y a des cas comme ça, c'est la justice qui doit remettre les hommes sur le bon chemin. Mais quelle est cette justice chez nous qui pourrait vraiment trancher avec l'objectivité dont on a besoin pour remettre tout le monde en place? C'est ça le grand problème. Je crois que les amis se sont déjà exprimés. La RDC, pour se développer, doit se soumettre à une révolution morale. La RDC, les citoyens congolais, doivent se soumettre à une métanoïa et à une catharsis des valeurs et vertus morales. Sans cela, JR, nous reviendrons sur vos antennes. On irait débattre sur toutes les chaînes du monde, ça n'aura rien changé si les Congolais eux-mêmes ne comprennent pas que la corruption tue un pays et si nos juristes arrivent aussi à se laisser faire. Parce que
Franck. Il y a quand même tout de même une réalité. Vous êtes là à Vienne. Nous suivons l'actualité en Europe. En tout cas, chaque jour qui passe, jamais, en aucun jour, on rate cette question de corruption qui est dénoncée, ça et là. Ce n'est pas propre en Afrique ou encore en RDC. Je crois que c'est un combat que tout compatriote, que ce soit au Congo ou encore les citoyens du monde, doit auquel doit participer tout citoyen du monde, et pour arriver, non seulement, comme l'a dit Paulin Odiane, éradiquer, parce qu'on n'y arrivera pas, mais diminuer sensiblement dans chaque coin du monde, ça serait quand même l'idéal. Et à notre niveau, à chaque événement, il faudrait en parler pour sensibiliser et mettre la population devant leur conscience qu'il y a des dangers que cela produit.
Oui, merci, mon ami Gère. Je crois que nous devons nous remettre d'accord sur certains faits. Je n'ai pas dit, on ne parle pas de la corruption au niveau mondial. On parle des faits de la corruption qui se font déjà voir au niveau du processus électoral. Mais la corruption comme fait ou la corruption comme tendance, on peut accepter qu'elle est inhérente à la nature humaine. Donc, comme elle est inhérente à la nature humaine, on ne peut pas dire que c'est seulement pour. Mais si nous devons voir les proportions de la corruption qu'on dénonce chez nous par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est parfois des histoires à dormir le jour et la nuit. Ici, en Europe, quand il y a des élections, on voit rarement des candidats passer pour aller corrompre des électeurs. On voit rarement des gens passer aller donner des pio d'ici, des cartons de poulet là-bas. Non, on peut procéder à une campagne, mais les gens ont quand même une certaine maturité électorale qui leur permet de voter selon les critères sélectionnés. Mais chez nous, on a d'abord un problème. Le taux du chômage est jusqu'à 85%. Et les gens savent maintenant que pour avoir accès à une bonne vie, il faut absolument devenir politicien. Et pour le devenir, tous les moyens sont permis. C'est aussi là le plus grand problème. Et la justice qui doit travailler pour sanctionner, est-ce que JR, vous pouvez vraiment nous dire que nous avons cette justice qui pourrait remettre tout le monde à sa place après avoir dénoncé? Ça serait pour la 40e fois. Le même prof Luzolo, il a dénoncé comme conseil du chef d'État sortant. Il avait dénoncé. Il continue à dénoncer. Je dois dire qu'il fait son travail en tant que citoyen congolais. Les compatriotes qui ont dénoncé, nous sommes en train de faire notre travail. Mais qui nous écoute? Qui nous écoute? Parce que ces gens-là savent qu'ils doivent corrompre, parce que le travail qu'ils vont faire là-bas au sein de ces hémicycles, c'est la continuité.
Alors Franck, juste une question. Est-ce que quand on parle de cette problématique de la corruption et que personne ne nous écoute, faudrait-il qu'on s'arrête quelque part, qu'on n'en parle plus, parce que c'est quand même un fléau pour la société. Faudrait-il que les gens oublient, parce que bon, d'une part, il y a ceux qui sont puissants, qui sont insensibles à la dénonciation ou à la dénonciation de ces faits, ou bien il faut continuer parce que la vérité finit toujours par triompher.
Mon ami Gère, j'ai bien dit que...
Oui, allons droit au but. Vous êtes sur quel camp? Il faut abandonner, il faut arrêter de parler. Il faut arrêter de parler de la corruption. Parce que les CC, par le passé, les dénoncer de manière sourdine, mais cette fois-ci, ils ont haussé les tons.
J'ai bien dit que nous devons nous soumettre à une révolution morale. Dire que nous devons nous soumettre à une révolution morale, nous soumettre à une métanoïa, c'est pour dire que nous devons changer, nous devons continuer à dénoncer.
Et qui doit demander à qui de changer? Qui doit demander à qui?
Chaque citoyen congolais doit d'abord...
Et il doit le faire par quel mécanisme? Il doit le faire par quel mécanisme?
Mais moi je peux dénoncer, mais ceux qui sont au niveau...
Vous allez dénoncer par quel mécanisme? Ma question, vous allez les dénoncer par quel mécanisme? Par voie des ondes? Par des sensibilisations dans les ateliers avec un groupe de gens? Ou bien pour large écho, vous allez le faire par des médias?
On peut passer par des médias, on peut passer par des...
Donc on peut le faire autant de fois.
Des enseignements, autant de fois, mais il y aura peut-être une personne qui pourrait comprendre et...
Voilà. Donc on peut dire, il faut pas se fatiguer, il faut continuer à les dénoncer. Merci beaucoup, Franck. Bernard, vous êtes à Lubumbashi, Tsingy Pouloulou à Kinshasa, vous gardez la ligne. Il est temps pour nous de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent aussi participer à ce débat au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69.
Oh. Mario. Tout le monde,
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi, la radio de toutes les musiques.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Kapi. Notre invité, finalement, est arrivé dans ce studio. Bonjour, révérend pasteur Eric Senga.
Bonjour, mon frère.
Vous êtes porte-parole de l'ECC, je crois que c'est comme ça. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous de recevoir pour la première fois dans cette émission le porte-parole de l'Église du Christ au Congo. L'Église du Christ au Congo, disons, lève le ton, hausse la voix pour dénoncer des cas ou des faits de corruption. Et vous dites clairement dans votre dernière déclaration que vous détenez des faits palpables de cette corruption et vous attendez les mettre à la disposition du parquet pour une éventuelle instruction. Vous le confirmez ?
Bien, merci beaucoup JR et bonjour aux auditeurs. J'aimerais d'abord qu'on fixe les idées sur ce qui est les programmes du président national de l'Église du Christ au Congo et donc les révérends docteurs Bokundoa. L'Église du Christ au Congo est dans une démarche à la fois prophétique, comme nous le disons, mais aussi patriotique. Patriotique dans la mesure où l'Église n'est pas qu'une institution ecclésiastique, mais elle est aussi une force majeure de la société civile. C'est à ce titre que le président a mis en exergue l'effectivité de l'état des droits dans son programme stratégique. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas parvenir à l'effectivité de l'état des droits sans certaines conditionnalités. D'où la nécessité de lutter en faveur de quelques postulats que nous estimons nécessaires. Notamment la lutte pour la bonne gouvernance. Et c'est là que nous avons inscrit des activités allant dans le sens d'activer la société, attirer l'attention des politiques. Il y a deuxièmement la lutte pour la moralisation de l'espace politique. Et c'est là que s'inscrit finalement le programme de la lutte contre les antivaleurs, notamment la lutte contre la corruption. Et puis après, la lutte en faveur du respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Histoire de voir dans quelle mesure, comme Église, mais aussi et surtout comme société civile, nous pouvons faire participer la population à ce que nous considérons comme une démocratie constitutionnelle. Alors, je reviens à votre préoccupation. J'affirme cela, l'Église dans cette démarche qui n'est pas un fait anodin, moins encore un fait de temps, mais qui s'inscrit dans un programme. Vous nous avez eu sur terrain avec notre mission d'observation électorale, cela s'inscrivait dans la même logique. Et après les élections, nous avons des résultats au niveau de la présidentielle telles que les choses se sont passées, mais l'Église n'a pas baissé les bras, elle continue dans sa démarche. Et c'est à ce titre que finalement nous avons dénoncé, parce que il faut signaler ici pour ceux qui nous écoutent, que l'Église du Christ au Congo a 95 communautés à son sein. Et ce qui nous fait un effectif des membres de près de 40 millions de membres ici dans les réseaux internes. Sans compter les réseaux des protestes à l'extérieur avec lesquels nous travaillons. Donc nous disposons des réseaux importants de communication, de change. Et pour cette fois-ci, j'ai suivi les interventions des uns et des autres. J'aimerais placer aussi les mots pour dire, l'Église n'est pas dans le sens de dire nous avons tenté, ça n'a pas donné des résultats et nous nous fatiguons. Non. Nous pensons qu'il faille commencer quelque part. Et si vous considérez avec nous le paradigme politique de l'heure, il est important d'insister sur la réqualification du rôle que la société civile devrait jouer par rapport aux enjeux de l'heure. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, certes, nous reconnaissons, il y a eu des points forts, il y a eu des points faibles. L'Église a pris son temps de réfléchir, de repenser et même de se réengager dans une logique quelconque. Et donc, c'est pour ainsi encourager les uns les autres dans la démarche qui nous est commune. Le preuve, oui, nous avons de preuves, mais comme je l'ai dit en sommaire, nous sommes dans une démarche d'abord qui a commencé dans la dimension d'interpellation. Le rôle prophétique de l'Église est de dire la vérité, de dénoncer le mal, mais surtout de proposer des voies idoines des sorties des crises. Mmh. Nous sommes dans la deuxième phase de la dimension prophétique, la dénonciation du mal. Et notre réseau de communication est bien fourni en termes de preuves.
Oui, Eric, je crois qu'il y a beaucoup d'internautes qui réagissent déjà. On a toujours reproché à l'ECC d'être un peu passif. Mais aujourd'hui, on sent ces réveils-là. Disons, on ne dirait pas mieux vaut tard que jamais. Mm-hmm. On a vu l'Église catholique être au premier plan pendant un moment, mais maintenant c'est l'Église protestante. Mais qu'est-ce qui explique tout ça?
De fait, ou des choses, ou des réalités, si vous voulez bien. D'abord, il faut dire que il y a une nouvelle administration, il faut le souligner, avec le révérend docteur Bokundoa qui a la présidence. Tout compte fait, il y a toujours une continuité dans l'administration. Son prédécesseur a commencé le travail, il a laissé quelque part notre papa, l'archevêque Marini Baudot, que vous connaissez bien. Comme toute œuvre humaine, a toujours des points forts et des points faibles. L'Église a plutôt maximisé le critique, le remarque qui ont été formulées et adressées à son endroit, compte tenu de son engagement politique. Donc ici,
les réajustements,
justement, pour à la fois continuer l'œuvre des prédécesseurs, mais aussi dans l'intériorité de l'action, apporter des mises à jour pour essayer d'améliorer où les choses étaient bien faites, où elles n'étaient pas bien faites. Et puis,
est-ce que vous avez saisi les procureurs par rapport à ces faits?
Jusque là, nous n'avons pas encore saisi les instances judiciaires, parce que la démarche, comme je l'ai dit, était d'abord prophétique, mais à ce niveau, nous sommes en train de réunir, parce qu'il y a d'autres éléments de preuve qui continuent à tomber. Mais dans le même temps, il faut aussi avouer qu'il y a une sorte de repentir que nous constatons. Parce que quand nous parlons des députés provinciaux, il ne faudrait pas simplement voir la ville de Kinshasa. Il s'agit ici de l'ensemble du territoire national. Donc les députés provinciaux dont question ne sont pas qu'à Kinshasa. Nous sommes très heureux de savoir d'un côté que notre voix a été entendue parce que relayée par d'autres forces vives. Vous avez cité une grande personnalité comme les professeurs Zolobambi. Et ça nous a beaucoup réjouis. Mais d'autre part aussi, nous avons compris que l'écho a réellement atteint la cible, parce qu'il y a certains qui commencent déjà à avouer, d'autres commencent à dire, bon, ce n'était pas moi, les choses étaient venues de septembre. Nous pensons que si nos amis concernés, parce que ce n'est pas tous les députés provinciaux, ceux qui sont impliqués dans cette démarche, qu'ils s'obstinent de passer à l'acte de ces antivaleurs.
Voilà, on va revenir à vous, révérend pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC. Si vous le permettez, on va écouter les auditeurs et honorable Tsingy Pouloulou, qui est en même temps, je crois qu'il a déjà opéré son choix, parce qu'il a été élu au niveau national ainsi qu'au niveau provincial. Bernard, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Permettez que je commence par souhaiter bon anniversaire à la radio Capi au nom de l'ASBL arrêté de s'assurer.
Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Et nous rappelons d'ailleurs à ceux qui ne laissent pas, Radio Capi a 17 ans aujourd'hui, 2002-2019, ça fait 17 ans d'existence. Donc bon anniversaire à tous les Okapi à travers les pays et même ceux qui sont dans le, disons, à travers l'étranger. Oui Bernard, vous avez la parole.
Je commence d'abord par féliciter l'Église ECC parce que c'est le rôle que l'Église doit jouer normalement pour nous remettre sur les rails. Je crois que nous devons d'abord comprendre que ces élus sont l'émanation, elles sont issues de la corruption. Ils ne peuvent que nous produire la corruption. C'est là où nous disons que le nouveau président a vraiment un travail très difficile sur le terrain. Et je crois que pour nous, nous allons lui demander... Il commence d'abord par dissoudre ces assemblées issues de la corruption. Parce que je ne crois pas qu'il va bien travailler avec ces assemblées. Vous conviendrez avec moi, vous venez de voir déjà, il y a des réunions de gauche à droite qui se passent là où on essaie de regrouper ces élus pour leur donner une ligne de conduite par rapport à leur mission.
Et Bernard, vous ne craignez pas, oui, Bernard, vous ne redoutez pas comme les autres auditeurs dans leurs commentaires que le fait que l'exercice de la politique à RDC souffre de la moralisation. Nous avons vu comment les politiques ont vilipendé la CENCO à un certain moment dans ces processus électoraux. Vous ne craignez pas que ça risque d'être aussi le cas pour les CC qui hausse les tons?
Non. Nous les encourageons parce que nous ne pouvons pas baisser les bras parce que les gens qui ont de mauvaises intentions sur la RDC puissent continuer à faire du mal à la République. Pour nous, nous encourageons la SCC et l'Église catholique aussi à continuer à demeurer sur cette voie et nous serons toujours à leur côté pour combattre ces antivaleurs. Et je crois que je pouvais profiter aussi de l'occasion pour appeler à notre nouveau président. Je crois son père nous a toujours dit que luttons contre les antivaleurs. C'est à lui maintenant de prouver comment il va lutter aussi contre ces antivaleurs, défendre les lois et les combats légitimes des luttes de PES.
Voilà, juste une question à la fin avant de nous quitter, Bernard, avec vous, pour lutter efficacement contre la corruption, est-ce que vous pensez comme les autres qui demandent au nouveau chef de l'État le fait que 80%, vous l'avez dit, des personnalités politiques aujourd'hui sont issues de cette corruption, qui ne reviennent pas dans plusieurs institutions? Ceux qui ont été élus députés nationaux, tant mieux, mais au niveau du Sénat, au niveau même du gouvernement, qu'ils puissent être un peu regardants.
C'est ce que nous souhaitons et nous disons en tout cas, si lui aussi ose travailler avec ces gens qui nous ont amenés là où nous sommes, je crois que nous allons descendre dans la rue pour réclamer à ce que lui aussi puisse partir avec ces gens-là.
Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas tolérer. Voilà, merci beaucoup Bernard. On poursuit cette émission.
Nous amener les mêmes gens qui voilà. Nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors Tingui Pouloul, honorable Tingui, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
Ben, je crois que vous avez déjà fait le choix entre la députation provinciale ou la députation nationale. Donc, vous êtes député provincial ou député national?
C'est déjà choisi au niveau national.
Au niveau national. Ben alors, on vous a vu siéger même au niveau de la province avant de faire ces choix. Lorsque les gens commençaient déjà à dénoncer ces cas, ces faits de corruption, est-ce que vous pouvez nous confirmer, parce que vous avez été élu à Kinshasa, que ces faits sont avérés? Il y a vraiment eu des cas de corruption au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Radio Kapi, la radio de l'ouverture.
Merci beaucoup.
Je voulais expliquer que vous devez savoir qu'un député, quand il est élu, le vote des sénateurs et des gouverneurs sont des étapes qui lui arrivent. Les députés provinciaux, évidemment. Les sénateurs qui sollicitent à être élus sénateurs auprès des députés provinciaux, c'est eux les corrupteurs. C'est eux qui viennent avec l'esprit corruption. Mm-hmm. Pourquoi je le dis? Moi, je suis élu dans la liste de mon regroupement politique AAB, mon parti politique Fraternité Congolaise. Alors, vous venez, ah, monsieur honorable Ntingui, je suis candidat sénateur, mais messieurs, dans notre recoupement, il y a des candidats sénateurs. Dans notre parti politique, il y a des candidats sénateurs. Quand toi tu viens pour que moi je te vote sénateur, c'est déjà une corruption. Est-ce que c'est difficile de réfléchir comme ça? Ces gens-là, qui ne sont pas d'un parti politique, mais qui veulent être des sénateurs, mais ce sont eux les corrupteurs.
Mais vous aussi, honorable Tingui, vous aussi, avec votre regroupement AAB par exemple, ou encore un autre regroupement, quand vous votez simplement un membre de votre regroupement sans tenir compte des besoins réels de la province, déjà là c'est une autre forme de corruption, c'est vraiment une corruption morale, c'est donc vous êtes redevable à celui-là sur qui vous portez votre voix.
Il y a ceci, monsieur J.R., aujourd'hui vous voulez maintenant comprendre ce que je vous disais. Je vous ai dit aussi votre radio Capi, nous devons créer le département psychologique de la nation. Pas QV devient politicien. Est-ce que vous m'avez soutenu?
Non, à cette époque-là, vous étiez auditeur, simple auditeur, des paroles aux auditeurs, et vous décriez la corruption. Aujourd'hui, vous êtes aux affaires. Allez-vous voter pour votre membre de regroupement parce qu'il a été corrompu la fois passée, et il est élu, et aujourd'hui, il demande, il sollicite encore. Vous allez le faire, vous, sincèrement?
Non. J'ai dit ceci. est candidat d'abord, sénateur, membre du regroupement. Maintenant, parmi les membres du regroupement, il y a ceux-là qui respectent les critères ou bien qui représentent les valeurs voulues et ceux-là qui ne les représentent pas.
Mmh.
Chacun d'eux ont proposé, ils vont présenter leur programme, ils vont présenter leur discours. D'autres ont déjà commencé à faire les dépliants à la disposition des députés provinciaux. C'est le mieux que nous allons voter. De la même manière que moi j'ai été voté sur base d'un programme, d'un dépliant.
Tout à fait.
C'est comme ça. Celui qui vient bonnement, qui n'est pas de notre regroupement, qui n'a pas ces valeurs-là, comment ose-t-il espérer être voté?
Et si le candidat de votre regroupement se retrouve en face de quelqu'un qui présente un projet de société meilleur que celui de votre regroupement, allez-vous faire le choix autre que celui de votre groupement?
Il faut qu'il soit. S'il le fait, tant mieux. Mais vous croyez que ces gens-là, d'abord, regardez.
Merci beaucoup. Honorable, je crois que vous avez quelque chose encore à ajouter. Le temps de revenir à notre invité, et qu'il n'a plus d'ailleurs assez de temps.
Ce que je dois vous dire, c'est quoi? D'abord, il y a une discipline de chaque parti politique et de chaque regroupement. Si vous voulez résoudre les problèmes, parce que nous ne sommes plus à l'époque des plaintifs, maintenant c'est l'époque des faits. Le président de la République était avec nous dans les rangs des critiques. Maintenant, nous sommes tous, lui et moi, nous sommes tous dans les affaires. Nous devons maintenant travailler, donner des solutions.
Merci beaucoup.
Ce que nous devons faire, c'est de dire que nous devons créer les départements parce que de la nation de soutenir ça. Pas QV devient politicien. Parce que quand on entend par budget électoral, ce budget-là fait quoi? Quand on parle d'un budget électoral, ça fait quoi? C'est de quoi? De quoi il s'agit? Monsieur Gilles, dis maintenant aux auditeurs, quand tantôt par budget électoral, ce budget sert à quoi? Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en République démocratique du Congo que nous critiquons maintenant. Quand tantôt par budget électoral, cet argent sert à quoi?
Financer les activités électorales au niveau de la CENI et appuyer des partis politiques en même temps, donc financer les partis politiques. Ça sert à beaucoup de choses. Je crois que ce n'est pas le débat du jour. On y reviendra prochainement dans un autre débat dans Parole aux auditeurs. Merci beaucoup, honorable Ntsingi Poululu. Alors, on revient à vous, Eric. Quand vous entendez des politiques, la position des politiques, qu'est-ce que ça vous fait?
Deux réactions. La première, c'est un peu une analyse où nous pensons que la constitution de notre pays nous interpelle dans la mesure où aujourd'hui nous constatons les limites de la démocratie représentative. Parce que tout ce que nous déplorons, j'ai suivi l'honorable qui j'ai salué en passant, je l'ai suivi par plusieurs fois, je crois qu'il reste cohérent dans ses analyses, mais le problème demeure tant que nous serons dans une démocratie représentative, mais qui s'inscrit dans un paradigme pluraliste de la politique. Nous sommes dans un pays naturellement pluriel, pluralité ethnique, pluralité culturelle, pluralité religieuse, et donc ces paradigmes pluriels semblent ne pas s'accommoder avec les modèles de la démocratie proposés. C'est vrai, les analystes les plus avertis, lorsqu'ils soulèvent les limites de la démocratie représentative, entre autres, on note le fait que qu'il y ait une minorité de personnes qui parlent au nom de la majorité sans incarner les attentes profondes de la population. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, c'est que nous ayons une minorité de personnes qui luttent pour la bonne cause, mais par des orientations qui ne touchent pas la globalité des problématiques de la nation. Et donc, partant de cet élément, l'Église pense qu'il est important, surtout pour les enjeux de l'heure, de proposer un cadre de concertation. Pourquoi ces cadres de concertation? D'un côté, avec tous les malaises, quand vous voyez aujourd'hui l'architecture institutionnelle, du pays, nous avons le chef de l'État qui, vraisemblablement, n'aura pas la majorité au Parlement, des deux chambres, des gouverneurs, comme nous déplorons, des sénateurs, par voie des conséquences, dans un régime semi-présidentiel, et nous craignons fortement que, sans les contrôles, je l'ai dit sous réserve de la magistrature, peut-être de la Cour constitutionnelle, sans les contrôles du Parlement, où il n'a que la présidence, je crois que de manière beaucoup plus raisonnable, nous risquerons d'avoir beaucoup de crises interinstitutionnelles. S'il faut considérer les accords des uns et des autres. De l'autre côté, ce sont les attentes de la population qui sont très élevées par rapport à la capacité de l'appareil étatique de l'heure. Donc il faudrait
parce que déjà la cité, les gens parlent déjà des 100 jours,
exactement.
100 jours, déjà le 100e jour, les gens commenceront à évaluer.
Et surtout que le président est issu d'un parti des masses qui a prôné sur toute la ligne le changement avec en maxime le peuple d'abord. Alors comment est-ce qu'il pourra traduire en œuvre cette vision? Volonté qui n'est pas mise en doute, du reste, surtout pas par l'Église. Nous croyons beaucoup à sa volonté politique, mais nous disons le mécanisme institutionnel risque de devenir un frein. Soit il sera obligé de forcer un passage par voie des conséquences, il y aura des couacs entre acteurs politiques, soit il sera obligé de s'accommoder aux accords, parce que déjà, comme je l'ai dit, la limite de la démocratie représentative, c'est que les acteurs du jeu politique ne sont pas tous porteurs des attentes de la société. C'est comme ça que nous pensons l'Église et la société civile en général devraient jouer ces rôles de plaidoyer. Un médium qui sera à la fois en train de contrôler les jeux politiques, quand je dis contrôler, c'est-à-dire accompagner, entre les acteurs politiques, de temps en temps, quand il y a des entrechocs, nous pouvons avoir un mécanisme d'assouplissement des voies de sortie. Mais en même temps aussi, il faut considérer les structures sociales qui sont fortement affectées par les frustrations, par les déceptions. Il ne faut pas ignorer qu'aujourd'hui, l'issue de ces élections n'est pas de nature à donner la paix. D'un côté, nous apprenons, nous suivons avec beaucoup d'attention.
On a l'impression qu'il y a une tension latente qui n'attend que
Bien évidemment, il faut aller à l'intérieur du pays. Nous vous disons comme ceux-là des pasteurs qui ont des églises sur toute l'étendue du territoire. Il y a des frustrations. Pas forcément parce que les gens sont contre le président de la République, outre les frustrations à caractère politique. Mais nous avons insisté sur les attentes. Vous suivez la grogne aujourd'hui, la grogne au niveau des entreprises. Peut-être ce n'est que le début. Voyons voir d'ici 3 mois. Donc bref, l'Église pense que nous ne pouvons pas décoller. Le président aura difficile à décoller si nous n'arrivons pas à reconstruire notre
métier. Il faut la moralisation de la politique congolaise.
La moralisation de la politique d'un côté, mais aussi l'éducation civique de l'autre au niveau de la population. Ce qui va exclure les écarts entre les gouvernés et les gouvernants.
Voilà, on va écouter Jonas Akananga, Père Zeno à Kisangani et Arsène Akikwit. Et puis on revient à vous pour la conclusion. Jonas, vous êtes à Kananga. Bonjour Jonas.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les autres et joyeux anniversaire à la chaîne de la paix.
Quelle est votre contribution, Jonas?
Oui, très brièvement, parce que je sens que le temps pointe. J'ai deux préoccupations. Bon, la première préoccupation, j'interpelle les députés provinciaux à travers toutes les 26 provinces. Ce sont les députés provinciaux, à mon sens, qui sont à l'origine de la misère qui gangrène nos provinces. Par exemple, nous entendons qu'il y a quelqu'un qui a débloqué 50 000 dollars pour corrompre les candidats, pour corrompre les députés afin de les voter comme gouverneur ou comme sénateur. C'est vraiment déplorable pour notre pays. Et dès que c'est la licorne, une fois qu'il a fait nos affaires, il va chercher à recouvrer tout son argent qu'il a dépensé. Il va.
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne. On ne saura pas vous garder le plus longtemps possible sur les ondes des Radio Capi. Par respect de nos auditeurs qui nous écoutent, Jonas, on est vraiment désolé, on ne saura pas continuer avec vous. On prend plutôt Père Zeno qui est à Kisangani. Bonjour Père.
Père Zeno. Oui, bonjour JR, je vous suis très bien là. Je passe tout de suite à ma vision des choses. Je commence par dire que la corruption, c'est une épidémie en RDC. Donc, c'est à prendre au sérieux. Et il y a une année, on a inventorié 150 pays. La RDC était à la 6e place en matière de corruption. Et pour ironiser un peu, je disais aux gens, nous sommes quand même de bons élèves à RDC parce que nous sommes à la 6e place en matière de corruption. Ce que j'ai remarqué à RDC, il manque une vision. Et je vois les églises, par exemple, tous les dimanches. Et c'est que passer à Kinshasa. On ne sait plus dormir, on ne sait plus étudier. Quand on est malade, on ne peut pas se reposer. Partout, c'est Dieu, Dieu, Jésus, Jésus, alléluia, amen. Qu'est-ce que les gens vont chercher dans ces églises-là? Parce qu'on voit que partout et à tous les niveaux, il y a corruption. Du petit au grand, c'est pas du vieux au jeune. Alors un autre élément, je me dis, celui qui est corrompu ou qui corrompt fait la honte de sa propre personne, fait la honte de sa femme s'il est marié, fait la honte des enfants. Et je dis, les enfants en RDC devraient porter plainte. Parce que tous les grands sont en train de montrer aux enfants que tricher, corrompre, mentir, ce sont des valeurs. Aujourd'hui, ces enfants devraient, dans leur parlement des enfants-là, aller en justice porter plainte. Et là encore, je cite à leur justice, où se trouve la justice en RDC. Et vous avez vécu tant de choses. Alors je me dis, c'est un problème sérieux. Il faudra que on trouve des hommes intègres. Où sont-ils? Déjà qu'ils n'arrivent pas à corrompre. Vous allez peut-être me dire, mais vous-même perdez-nous là. J'ai dit un témoignage personnel, je m'excuse de me vanter.
Oui.
J'ai fait 13 ans dans une école, 12 ans comme préfet, une année j'avais enseigné. Et je n'ai jamais pris un franc d'un élève, ici au collège Maël, pour ceux qui connaissent. Jamais. On a dû enseigner et terminer sans chercher de l'argent. Mais aujourd'hui, dans quelle école, vous ne trouvez pas de corruption. C'est plein. Alors je me dis, on est immature, on n'a pas grandi, on n'a pas eu de bons parents, on n'a pas eu de bonnes écoles, et on devient corruptible.
Voilà. Merci beaucoup,
alors,
Père Zeno.
Les enfants...
Oui, Père Zeno, oui. On ne saura pas aller plus loin parce que le temps nous fait défaut. Il nous reste deux bonnes minutes. On va accorder ça à notre invité pour la conclusion. En attendant, on écoute Arsène qui est à Kikuit. Arsène, bonjour. En une minute, Arsène.
Bonjour, M. JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous l'ajoutez,
oui. Avis,
oui.
Je pense, à mon avis, que l'erreur est partie dès le départ avec la conférence de Berlin. Parce que là, il y a incompatibilité entre les institutions qu'on nous impose par la communauté internationale et tout ce qu'il y a eu comme arrangement, et notre culture politique ancestrale. Donc, en soi, moi, pour moi, la solution, c'est avoir une politique un peu éclectique qui peut s'adapter à notre culture ancestrale et s'adapter à la mouvance internationale.
Merci beaucoup, Arsène. On accorde la parole alors à notre invité et pour la conclusion, après avoir écouté les uns les autres, de manière un peu ramassée, et puis un dernier mot.
De manière ramassée, je salue d'abord les efforts et l'engagement de tous les compatriotes, et aussi dire que l'Église est très engagée. Quand je dis l'Église de Christ au Congo, mais qui ne travaille pas seule, qui travaille en collaboration avec d'autres confessions religieuses. Nous avons l'Église catholique, qui est l'Église sœur, et d'autres confessions religieuses. Deuxièmement, c'est nous encourager. Vous savez, le changement n'est pas simplement une volonté, mais c'est aussi un engagement. Nous passons des moments très particuliers de l'histoire de notre nation, où nous devons dépasser les considérations des nous particuliers. Nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Nous pensons qu'il faudrait réinventer un nouvel Adam congolais. Les grands problèmes, pour nous, se trouvent aussi au niveau ontologique, au niveau de l'être. L'être congolais, nous devons les réinventer. Les réinventer sur base de quoi? Sur des bases des valeurs morales, mais aussi sur des bases des valeurs constitutionnelles. Nous continuons à penser, comme le dit Jürgen Habermas, le constitutionnalisme doit reposer sur une citoyenneté fondée sur des valeurs constitutionnelles. Donc, nous pensons que cela est un élément important. Et pour finir, c'est aussi souhaiter joyeux anniversaire à Radio Okapi. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois que vous nous invitez. Et passer la salutation du président à tous les protestants et à tous les compatriotes. Et aussi à nos institutions, aux animateurs, nous disons, nous attendons les élections des gouverneurs, des sénateurs et tout le reste. L'Église reste attentive à tout le mouvement et à tout le détail. Cette fois-ci ne sera plus comme avant. Nous disons pour clôturer, le Congo n'est pas un cadeau offert aux acteurs politiques. Le Congo,
c'est un patrimoine commun.
Est un patrimoine commun qui doit nous offrir un rêve collectif.
Et pour cela, vous avez un monitoring?
Très avancé déjà, et je crois que au fur et à mesure, vous en serez informé.
Et vous serez capable de hausser davantage encore les tons, si jamais il y a vraiment les soucis de les faire exprimer par la population.
D'ailleurs, dans les semaines qui viennent, il y aura une grande rencontre de l'Église avec toutes les forces vives et les animateurs de la société civile. Nous sommes dans la démarche de requalifier le rôle de la société civile pour qu'on ne nous oppose pas le principe de la laïcité, parce qu'une
ne faut pas oublier que c'est pourquoi j'ai dit en passant les Congolais.
C'est un État laïque, mais l'Église est dans la société civile. Mais voilà. C'est un débat. Déjà, les voix s'élèvent pour dire il faut que l'Église quitte la société civile ou carrément il faut supprimer l'Église, la société civile qui ne joue pas réellement son rôle. C'est un débat. On va inviter également les CC autour de ces débats que nous comptons organiser dans les jours qui viennent. C'était un réel plaisir de vous retrouver dans ces plateaux ou dans ces studios des radios Okapi, révérend pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Merci d'avoir accepté d'échanger avec les auditeurs, quoique avec un petit retard que vous avez rejoint ces débats, mais du moins l'essentiel a été partagé avec l'ensemble des compatriotes ici au pays et à l'étranger. Nous disons merci à tous ceux qui ont commenté ces sujets sur notre page Facebook. Vous pouvez continuer les débats sur www.radiokapi.net. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. On se retrouve demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs.